Radio Capi, Grand Témoin.
Il a été gouverneur de la province du Kasaï oriental pendant la transition. Dominique Quincou est l'invité de Grand Témoin. Dominique Quincou, comment allez-vous?
Je vais bien, Alain, et vous?
Bien aussi.
Merci.
Au cours de cette émission, nous parlerons de votre parcours politique, du moment où vous avez été gouverneur de la province du Kasaï oriental, mais c'est à Miabi où vous voyez le jour le 9 juin 1963. Miabi, c'est où?
Miabi, c'est effectivement dans la province du Kasaï oriental. C'est l'un des 5 territoires que compte la province et dont je suis originaire, et puis je crois que c'est ça en gros.
Et qu'est-ce que vous retenez de votre jeunesse?
Malheureusement, je n'ai pas vécu, si je peux dire, chez moi, dans mon territoire, dans mon village. C'était un concours de circonstances qui n'a pas permis suite au travail de mon père, qui travaillait à l'ONC. Dans le temps, c'était l'office du Café Robusta. Donc, je suis né au Kasaï, mais je suis resté à peine 3-4-5 mois, et puis je devais rejoindre Kinshasa avec ma mère pour venir rester avec mon père.
Et les études primaires, c'est où que vous les faites?
Effectivement, les études primaires, comme je viens de le dire, j'ai pas vécu ma petite enfance dans ma province. Donc, j'ai fait mes études primaires ici à Kinshasa. Une autre est partie dans la province de l'Équateur, à Bassankoussou plus précisément. Et puis, je suis revenu ici à Kinshasa pour les cycles d'orientation et puis les études secondaires à l'Athénée Royale, l'Athénée de la Gombe. Ensuite, j'ai eu mon bac, j'ai changé d'option de scientifique, je suis allé en pédagogie.
Et pourquoi vous étiez faible en maths?
Je n'étais pas très bon en maths et en physique. Donc j'étais beaucoup plus littéraire, plus côté écriture, lecture qu'autre chose. Donc je me suis retrouvé en terminale, j'ai fait juste la terminale pédagogique et puis voilà, donc après je suis parti étudier à l'étranger.
Et les écoles primaires que vous avez fréquentées, pouvez-vous en rappeler les
noms? Oui, j'ai fait l'école primaire à Ndengiringiri. Ensuite je suis parti à Bassankoussou en Poma où j'ai fait mes études primaires jusqu'à la fin. Et puis, je suis revenu à Kinshasa. J'ai fait les cycles d'orientation CO1 et CO4 d'Ngiriniri. Vous voyez que j'ai changé parfois d'école. Ça veut dire que je n'étais pas un très bon élève dans le sens de
la stabilité, peut-être?
Non, dans le sens de j'étais difficile. J'étais un élève difficile pour mes enseignants.
Pourquoi?
Mon caractère, j'étais assez, s'il faut le dire, on se dévoile un peu. J'avais un caractère qui était difficile, qui s'adoucit avec l'âge, je crois.
Trop gâté dans la famille.
Oui, il y a un peu de ça aussi. On n'est pas très nombreux dans la famille. On était 6, on est resté 4 aujourd'hui. Donc on avait l'attention de nos parents. Et puis, je crois que ça fait partie de ça aussi. Trop choyé par ma maman. Et je croyais que maman c'était aussi à l'école, c'était pas le cas.
Mais qu'est-ce que vous retenez par exemple du fait de voyager tout le temps, de suivre le papa dans les différentes mutations, dans les différentes provinces? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça?
Ben c'était une découverte. Il est arrivé un moment où dans mon âme j'étais beaucoup plus attaché à la province de l'Équateur, à Bassankoussou plus précisément, parce que c'est là que j'ai vécu mon enfance en fait. C'est une expérience. Aujourd'hui, quand je suis dans la province de l'Équateur, je ne suis pas dépaysé du tout. Je crois que c'est une bonne expérience. Il faut connaître son pays. Aimer son pays, c'est aussi le connaître.
Et à Bassankoussou, pouvez-vous nous raconter une anecdote de votre jeunesse?
Oh, l'anecdote de ma jeunesse à Bassankoussou, c'est que c'était une vie assez villageoise. Tant bien même qu'on était dans une petite ville portugaise et belge dans les années 73, c'était très agréable à vivre. Il y avait des missionnaires hollandais, on était encadrés par des frères, je me souviens de deux jumeaux hollandais, ce qu'on appelait comme Imam Oroko, des gens très agréables. On vivait dans la nature, l'école était en pleine forêt et c'était agréable à vivre. Pendant les heures perdues entre l'école et la maison, on entrait dans la forêt, on faisait la cueillette de fruits qui poussaient dans la nature, les bananes sauvages et autres. On voyait des singes traverser la route alors qu'on rentrait à la maison. C'était tout à fait une autre vie. Très agréable, très agréable.
Radio Capine, grand témoin.
Il a été gouverneur de la province du Kasaï-Oriental pendant la transition. Dominique Kankou est l'invité de Grand Témoin. Nous en avons parlé, vous terminez vos études en option en pédagogie à l'Athénée de la Gombe ici à Kinshasa. Mais comment vous arrivez en Europe?
Ben en fait, en Europe, j'arrive parce que quand j'ai fini mes études, c'était clair avec mon père, avec mon grand frère, qui est un père bis pour moi. Je crois qu'il a joué un grand rôle dans ma vie. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, au moins du côté scolarité. Et puis, je ne voulais plus rester au Congo en ce moment-là. Et puis, voilà, le compromis qu'on avait trouvé entre lui et moi, c'était celui-ci. Lui, il voulait que j'aille à l'université de Kinshasa, où j'étais inscrit d'ailleurs. Après, j'ai dit, je ne veux pas rester ici, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'aller en Europe pour étudier. Mais eux, j'ai dit, eux, les membres de ma famille, ils savaient très bien que si j'arrivais en Europe, j'allais pas forcément étudier, j'allais jouer au foot. Et c'était ça le point de divergence entre mon frère, mon père et moi. J'étais un mordu de foot et le foot passait avant toute chose dans ma vie.
Et pourquoi vous n'avez pas fait une carrière de footballeur?
Ben effectivement, c'est ce que je disais. Au lieu d'aller en Europe, ils ont trouvé la juste mesure. Ils m'ont envoyé plutôt à Lomé, où je suis allé pour commencer mes études universitaires. Après une année, je me voyais très mal en train de vivre à Lomé pour très longtemps. Et toujours le foot dans l'âme. J'ai dit non à la famille. J'ai dit, écoutez, moi je vais évoluer, je vais voler de mes propres ailes. Je me suis retrouvé à Abidjan, où le foot avait quand même une place très importante dans la communauté ivoirienne. J'avais un cousin qui était là-bas, Charles, qui m'a introduit à la SEC d'Abidjan, où j'ai fait un test qui n'était pas concluant vu que je suis tombé malade, et je me suis retrouvé plutôt à Blorne, l'équipe d'Unis les Verts en Côte d'Ivoire.
Et c'est en Côte d'Ivoire, à l'université d'Abidjan, effectivement, où vous décrochez votre diplôme d'études universitaires générales en criminologie. C'est quoi la criminologie?
Ben, en fait, la criminologie, c'est seulement la science qui étudie les causes du crime, les causes économiques, sociales, familiales, psychomentales. Donc, pourquoi il y a eu crime? C'est ça la criminologie, en fait.
Et de votre passage à Abidjan, qu'est-ce qui vous reste à l'esprit?
C'est cet aspect de petit Manhattan, du plateau, le centre des affaires d'Abidjan. Quand vous êtes de l'autre côté du pont Houphouët-Boigny ou bien du pont Charles de Gaulle, vous regardez Abidjan venant de l'aéroport de Port-Boué. S'il y avait l'hiver, vous vous croirez peut-être à Manhattan.
Et comment un Congolais vit-il en Côte d'Ivoire?
Très péniblement, parce que en Côte d'Ivoire, le créneau de l'emploi n'est pas aussi développé qu'en Europe. Et il y a aussi une espèce de saturation des ressortissants des pays limitrophes qui ont envahi le marché de l'emploi ivoirien. Donc le Congolais, il se débrouillait pour survivre. Donc ce n'est pas une vie qu'on peut dire aisée que le Congolais vivait ou menait en Côte d'Ivoire.
Toujours en ce qui concerne vos études, Dominique Kankou, vous avez un diplôme en études bibliques, option leadership à l'école biblique internationale à Kolding au Danemark.
Oui, tout à fait. Après la criminologie, je me suis retrouvé toujours insatisfait. J'avais toujours envie de faire ce que je faisais dans mon enfance, entre autres. J'ai commencé, quand j'étais ici d'ailleurs, à l'Institut de la Gombe, on avait un groupe IGSTAR, qu'on a appelé après Eligo, où je chantais effectivement avec Blaise Boula, Jean-Claude Boula, son frère. On se retrouvait avec Alain Makaba, Jibem Piana et les autres. Et puis à la maison, on avait un orchestre à ma campagne, Chata Junior. On faisait des concerts entre nous, entre amis. Donc il y avait aussi l'aspect musique qui était dans mon sang. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, effectivement, j'étais adopté par une maman libanaise, Madame Sawaya. Elle avait son fils Alain Sawaya, qui était mordu de la musique, avec Marcelin Yassé, qui était le chef d'orchestre et arrangeur de Woya, si vous vous souvenez, d'Abidjan. Et puis un jour, j'ai dit, je vais faire un peu de son, et puis je faisais mes études, mais pendant mes heures perdues, je faisais le son au studio Fréquence. Et là, j'ai commencé à chantonner. Et puis Alain et Marcelin disent, mais Dominique, tu chantes? J'ai dit, ça c'est mon premier amour. Et puis ils m'ont offert l'occasion d'enregistrer un disque.
Ah bon?
Entre autres, je n'en ai jamais parlé, la chanson qu'on écoute aujourd'hui, que chante l'un des musiciens congolais, qui s'intitule Coco Madimba. C'est bel et bien ma composition à moi, qui s'appelait à l'origine Billy Mabiala.
Ah, ça ferait donner quelque chose en syrien.
Oh, ça ne me dérange pas du tout.
Allez-y.
Banina no bo ke ne ki mo ben mo ba soni. Ya yo mo ben bo ke yi mo ta ko bo bili. Manana na ko ma ko ma ko ti ni san na. Maman, pourquoi papa ya zongi tere? Maman, pourquoi papa ya zongi tere? Ma bien là où vous.
Voilà. Ah, je pense que les ménomanes s'en souviendront longtemps. C'est ouais. Une des chansons qui a fait le beau temps de Wingy.
Voilà, ça c'est ma composition. Bref, on arrête là.
Coucou, Madiba. Aux armes bien-aimées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Samy Madi, bébé Madiba, Jean Zola.
Dominique Kankou, les études bibliques, vous recherchez quoi dans ce...
Ben, en fait, il est arrivé un moment quand je suis arrivé en Europe, où je suis allé initialement pour la promotion de cet album, que j'avais enregistré avec Alain Sawaya et Marcelin Yassé. Je me suis rendu compte que j'étais en train de courir après le vent, très franchement. J'ai fait un arrêt sur moi-même. Je suis un homme atypique, hein. Je ne suis pas un homme classique. Dieu seul sait pourquoi.
Il est un éternel insatisfait.
J'étais un éternel insatisfait, c'est vrai, mais j'avais envie de vivre ce que j'ai toujours voulu faire et pleinement. Et là, je me suis retrouvé en train de courir après le vent, en train de me battre contre l'air. J'ai dit, je m'arrête là, et puis voilà, j'ai rencontré, comme on le dit d'une manière assez commune, Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai accepté qu'il dirige ma vie, c'est ainsi que je me suis retrouvé à la faculté d'abord de théologie à Bruxelles, à Etterbeek. Là aussi, j'étais insatisfait parce que je ne cherchais pas la théologie, en fait. J'ai cherché la rencontre avec mon Sauveur, avec Jésus, personnellement. Et là, à la faculté, c'était beaucoup plus des sciences. J'ai demandé à certains amis qui m'ont recommandé l'école biblique au Danemark, où je me suis retrouvé pendant 3 ans et où j'étais pleinement comblé. Et puis voilà, donc c'est ça qui fait que je sois ce que je suis par rapport aux études bibliques.
Et alors, en 1998, vous êtes représentant du MLC en Europe et en Amérique. Comment du football, de la musique, vous vous déversez dans la politique?
Concours de circonstances, je me retrouve à Bruxelles pendant assez longtemps. Puis un jour, j'étais en vacances avec la famille de mon ami, mon frère Jean-Pierre Bemba. On s'est retrouvé à Faro. Lui, il était déjà au Congo, dans le MLC, la branche armée dans le temps. Et puis voilà, il a appelé son épouse pour que elle lui amène le tout dernier de sa famille, Jonathan. J'étais là, Madame Bemba, que j'appelle affectueusement Liliane, qui me demande de rentrer à Bruxelles avec ma famille, parce qu'on était les deux familles en vacances à Faro. On est retourné à Bruxelles et puis je me suis dit, ben, écoute, j'en profite pour aller voir Jean-Pierre. Et on lui a dit, on vient, Liliane, Jonathan et moi. Il a dit, ça me fera plaisir. On est parti, lui rend visite et je suis resté 2 jours. Il est resté avec sa famille. Moi, je suis rentré à Bruxelles et puis il m'a demandé de l'aider à faire quelque chose à Bruxelles. Et puis quelques jours après, il m'a dit, est-ce que tu peux pas m'aider à prendre des contacts à gauche, à droite pour moi, vu ceci, vu cela. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est fraternellement que je vais le faire. Et de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Il m'a donné effectivement le mandat de représenter officiellement le MLC dans tout ce qu'il y avait comme pour parler au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, prendre des contacts pour le MLC. Voilà.
Saviez-vous à quoi vous vous engagez en acceptant d'adhérer au MLC, de prendre la politique à bras le corps?
Initialement, il faut qu'on soit honnête, non. Mais en moi, il y avait une révolte que j'avais vécue ici en 98. J'étais venu ici en 98, effectivement, rendre visite à ma mère. Et puis, je me suis retrouvé devant la gare centrale. Je suis allé déposer du courrier à la fiancée dans le temps d'un ami. Et puis, j'ai vu de mes propres yeux, en cette époque-là, il y avait le révérend Jesse Jackson qui était en visite à Kinshasa, comment on prenait M. Tshisekedi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, dans des jeeps et qu'on amenait à l'aéroport d'Njili pour qu'on le renvoie à Kabeya Kamanga. J'étais très, très, très sidéré, j'étais très révolté qu'on puisse traiter une personne aussi responsable de cette manière-là. Ça m'avait choqué. Et par contre, je n'avais pas pris en ce moment-là l'engagement de dire, écoute, je m'engage dans la politique. La première réaction de ma part était dit, si c'est comme ça qu'on doit traiter les êtres humains au Congo, alors je ne reviens plus.
Entre 1999 et 2002, vous êtes secrétaire national du MLC, chargé des relations extérieures. 2002 à 2003, conseiller politique du président national du MLC. De 2003 à 2004, secrétaire exécutif adjoint du MLC, chargé de la mobilisation et de l'implantation. Et de 2004 à 2006, vous êtes gouverneur de la province du Kasaï Oriental. Comment vous y arrivez?
En fait, moi, initialement, il n'était pas prévu que j'aille gouverneur. C'était toujours dans le même cadre de la diplomatie. On se disait que Dominique allait être le ministre des Affaires étrangères pendant la transition. Ce qui n'était pas le cas pour des raisons qui sont assez complexes. Et ensuite, j'étais en attente du partage de postes diplomatiques pour que j'aille éventuellement à Paris. Et quand on a partagé la diplomatie, ce qui était intervenu après, mais bien avant cela, on avait partagé les responsabilités au niveau de province. Et quand on a attribué le Kasaï Oriental au MLC, j'ai dit, écoutez, je suis de là. Je l'ai dit très clairement à M. Bemba. Je lui ai dit,
je prends le poste.
Je prends le poste. Je lui ai dit ceci. Je suis kasaïen. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne connais pas chez moi. Et c'est la plus belle occasion qui puisse m'être donnée pour que j'aille connaître chez moi. Et dans la mesure du possible, si je peux faire quelque chose pour mes frères et pour mes sœurs. Et il m'a répondu comme ceci. Ok.
Radio Capi, grand témoin.
Il a été gouverneur de la province du Kasaï oriental pendant la transition. Dominique Kankou est l'invité de Grand Témoin. Vous avez été gouverneur d'une des provinces les plus riches de la RDC, Dominique Kankou. Mais cette province a beaucoup de mal à décoller. Pas d'infrastructure, pas de route, pas de problème d'électricité, d'eau. Qu'est-ce qui se passe en fait?
Province riche, vous savez, on est resté dans une logique, je dirais, de potentiellement riche. La richesse, elle est palpable. La richesse ne doit pas et ne devrait pas rester dans la mentalité congolaise une question de potentiel. On doit palper du doigt la richesse pour dire que telle province est riche ou pas. Quant à ce qui concerne la province du Kasaï oriental, elle est potentiellement riche, mais elle est économiquement très peu viable parce que le courant électrique part de Inga, il survole la province du Bandundu, il survole la province du Kasaï occidental, la province du Kasaï oriental pour atterrir au Katanga. Et si vous comparez là où le courant part et là où le courant atterrit et là où le courant passe par-dessus, c'est clair, il n'y a même pas à chercher à inventer la roue là-dessus. Il y a un problème d'énergie au Kasaï. On ne peut pas, et cela d'aucune manière, commencer à installer une petite ou une industrie quelconque sans énergie. Aujourd'hui, le barrage du Tchala, à ma connaissance, il produit entre 13 et 16 mégawatts, ce qui est loin d'être suffisant pour satisfaire déjà aux besoins domestiques. Donc, le problème du Kasaï, c'est pas un problème de potentiel, c'est un problème d'apport en énergie qui fera que on puisse donner de l'eau à la population de Mbujimaï, plus de 2 500 000 habitants. D'abord, ensuite, l'excédent énergétique qui va être disponibilisé pour permettre à ceux qui ont des capitaux, pour déjà la MIBA, qui produit les 13 ou 16 mégawatts, n'a pas d'énergie suffisante pour faire tourner ses turbines. Donc, il y a un déficit énergétique. Aujourd'hui, la MIBA, elle est par terre. Entre autres, le problème, c'est lequel? C'est le problème d'énergie. Aujourd'hui, en Mbujimaï, on achète un sac de ciment entre 30 et 50 dollars selon les périodes. Voulez-vous qu'on construise en Mbujimaï, en termes d'infrastructures, que ce soit privé ou que ce soit étatique, avec un sac de ciment qui vous coûterait 50 dollars? Non. Quelle est la solution? Importer le ciment, ce n'est pas la solution parce que les prix sont là. Quelle est la solution, disais-je? Il faut une industrie de transformation de la roche cimentée à Katanga ou à Kabeyakamanga, produire du ciment sur place, et on reviendrait en ce moment-là dans des coûts qui seraient raisonnables pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour construire. Aujourd'hui, pas de courant, pas de cimenterie, pas d'eau, pas d'exploitation optimale du diamant et à la Singamine et à la MIBA. Donc, on tourne en rond. On se retrouve dans un exercice du serpent qui avale sa queue.
Mais vous avez quand même été gouverneur pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine?
Effectivement, dans ce domaine, j'avais sollicité le président de la République qui m'avait fait cette faveur-là d'organiser une table ronde sur l'électrification des deux Kasaï. Et je me souviens très bien que l'actuel ministre de l'Énergie était celui qui pilotait. On était avec lui à l'hôtel Menling. On a lancé la table ronde. On était arrivé au niveau de recherche de fonds. Il y avait la Freeland First Bank qui s'était proposée et d'autres institutions financières qui s'étaient proposées pour trouver les 240 millions, si je n'abuse, qui étaient nécessaires pour pouvoir commencer le soutirage d'électricité à Chimbulu. C'est là où on en était. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est dans les tiroirs, c'est plein de poussière, il n'y a plus personne qui s'en occupe.
Radio Capi, Grand Témoin.
Il a été gouverneur de la province du Kasaï oriental. Dominique Kankou est l'invité de Grand Témoin. Dominique Kankou, pendant les élections des gouverneurs des provinces, vous étiez parmi les favoris pour le Kasaï oriental. Mais vous avez perdu les élections. Qu'est-ce qui s'était passé?
Merci Alain pour la question. Ce qui s'est passé, c'est qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, quand bien même qu'en face de moi, il y avait des gens, je n'ai jamais eu peur de mes convictions, de ce que je vis, ce que je sens, ce que je fais. Il y avait des amis qui sont dans l'AMP, qui sont des amis personnels, avec qui peut-être on n'a pas en ce moment-là eu la convergence d'intérêts. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, chacun a essayé de prêcher pour sa chapelle. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé, c'était.
Donc, on peut considérer qu'il y avait des trahisons?
Oh non, pas des trahisons, pas des déceptions. Je l'ai dit, c'était une question d'intérêt. politiques. Donc il y avait l'AMP qui voulait le gouvernorat, il y avait moi avec le MLC qu'on voulait le gouvernorat, mais je crois que les choses sont allées dans le sens où ça devait aller en ce moment-là, et puis voilà, le vin, comme je disais, il était tiré, on n'avait qu'à le boire, et puis il est bu.
C'est une réponse très politique, hein, Dominique Lanco.
Mais non, c'est pas une réponse politique, ce que je ne veux pas, c'est la polémique.
Juste après ces élections, vous disparaissez de la circulation politique. Que devient Dominique Lanco aujourd'hui?
Ben effectivement, un peu de recul pour... pas de recul, essayer de réfléchir.
Assommé par la défaite?
Non, pas du tout. Je suis pas le genre à être assommé par si peu de choses, parce que je suis devenu gouverneur, je pourrais faire un autre travail demain. Comme quelqu'un dirait, on est dans la réserve de la République, on n'est pas au chômage. Donc, la défaite, non. Il y avait peut-être autre chose qui m'avait fait réfléchir pourquoi je suis arrivé à ce résultat, parce que cela n'était pas prévisible. Juste 2-3 jours avant les élections, j'y croyais encore et tout le monde y croyait encore. Il faut dire aussi, il y avait eu une divergence de vue entre les avis de la population et ce qui s'est passé par les structures politiques. Donc, je me suis dit, ce qui est important pour moi, c'est de voir de quel côté j'ai pu trouver le soutien, donc le soutien de la population, et n'est pas allé en conflit avec ceux qui ont gagné les élections, parce que pour moi, ça ne sert à rien, ça ne rime à rien. La dispute, les querelles, la polémique, ce n'est pas mon genre. Donc j'ai pris un temps de réflexion pour me poser la question, qui est tout à fait simple. Pourquoi j'ai fait la politique, comment je la fais, avec qui je la fais, et comment je devrais la faire, avec qui je devrais la faire, et surtout arriver à la suite de ma logique, pourquoi je dois la faire.
Et si ce n'est pas un secret, quels sont les résultats de ces réflexions?
Ben, après avoir mûri ma réflexion, effectivement, je me suis dit, écoutez, la politique, c'est une excellente chose, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de la gestion de la chose publique, hein, qui s'occupent de la gestion de la cité, parce que c'est là même la définition par excellence de la politique. Mais de l'autre côté, il y a la politique sociale, il y a ce qu'on appelle l'humanitaire, c'est tout un domaine complexe, même dans le monde du gouvernement, je crois qu'il y a des ministères qui s'occupent de ce genre d'activités, donc il n'y a pas que les affaires étrangères, la défense, la justice, il y a le social, il y a l'humanitaire, il y a les droits humains et autres, sur lesquels pas mal d'ONG se penchent. Donc après avoir mûri ma réflexion, je me suis dit, je crois qu'il serait temps que je fasse quelque chose d'utile, comme on a eu l'habitude d'entendre ici, projet à impact visible. Donc je voudrais faire des choses beaucoup plus concrètes. C'est ainsi que je suis arrivé à créer une ONG, si je peux l'appeler ainsi, qui se nomme la Fondation Dominique Lanco pour le développement, qui est une structure d'encadrement social mise en place par moi-même et un groupe de gens qui m'ont toujours soutenu dans mes fonctions de gouverneur en Boujimaï, qui s'étaient baptisés eux-mêmes les amis de Dominique Lanco.
Mais de quoi va s'occuper concrètement cette ONG ou cette fondation?
Ben écoutez, la Fondation Dominique Lanco pour le développement, n'entendez pas ici seulement le développement en termes d'infrastructures et autres, le développement de la personne, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la personne et par la personne. Donc, dans un premier temps, nous avons ciblé la naissance. Donc, tout ce qui est relatif à la naissance de l'enfant, donc consultation prénatale, je vais entendre par là, échographie, peser, dépistage HIV, SIDA, pour que les mères porteuses soient prises en charge, pour que les enfants naissent au moins sains et pas porteurs du HIV. Donc, tout ce qui est obstétrique, tout ce qui est gynécologique, et après cela, suivre l'enfant, au moins dans ses premiers pas, en ce qui concerne les conseils qu'on doit donner aux mères pour la nutrition des enfants, parce que parfois on croit qu'il faut absolument aller au supermarché pour trouver la nourriture qui convient pour que l'enfant grandisse, disons du moins dans sa petite enfance, dans des bonnes conditions, mais il y a quand même de la nourriture qui peut contribuer à une bonne croissance de l'enfant. La deuxième phase, on passera à une étape qui est beaucoup plus délicate aussi, c'est-à-dire essayer d'encadrer C'est quelque chose que je faisais déjà quand j'étais gouverneur en Bujima, essayer d'encadrer les enfants sans domicile fixe, donc qu'on appelle malheureusement les chégués, mais qui, dans le cas précis, seraient des enfants qui travaillent dans les mines. Et ce qui fait que le taux de scolarité dans les provinces où les enfants travaillent dans les mines, le taux de scolarité est en chute libre, le taux de délinquance est dans une flèche ascendante terrible.
Grand témoin, c'est tout pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Dominique Kankou, ancien gouverneur de la province du Kasaï-Oriental. Merci à Willem Lungamba qui a réalisé et assuré la technique de cette émission. Cette émission est disponible sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez réécouter les émissions passées de Grand Témoin. Au revoir.